Bardot, Éric Bataillon.
Bonjour, c'est un document que nous vous proposons ce samedi. Le témoignage d'un réfugié irakien arrivé en France voici 4 ans après un périple compliqué à travers la Turquie puis l'Europe jusqu'à l'Allemagne. Ahmed, sa compagne et leur petite fille ont quitté Bagdad sans prévenir personne, ni famille, ni amis. Aujourd'hui, Ahmed vit dans une petite ville de banlieue parisienne. Il a obtenu récemment un poste de professeur de mathématiques dans un lycée. En seconde partie d'émission, nous feuilleterons la presse régionale Israël et Monde Arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Ahmed Al-Azawi.
Bonjour Éric Patéan.
Vous êtes originaire d'Irak et vous viviez à Bagdad, la capitale. Quel était votre travail en Irak ?
En fait, j'étais comme assistant professeur à l'université de Bagdad.
Dans quelle matière ?
Je suis prof de maths. Et grâce à mon niveau, j'ai eu un emploi à l'université comme assistant de professeur. J'ai resté presque 7 ans.
Et quand et pourquoi avoir choisi de quitter votre pays ?
C'est une question de sécurité. J'étais obligé de quitter l'Irak, malheureusement.
En quelle année exactement ?
2015.
Quelle était la situation sur le terrain en Irak à ce moment-là ?
En fait, c'était très difficile. C'était presque un changement de deux gouvernements. Elle était vraiment dure pour nous. Et j'ai préféré de quitter avec ma famille parce que j'ai réfléchi beaucoup de ma fille. Elle a eu 3 ans et j'avoue que j'ai pas le choix après les menaces que j'ai eues à l'université.
C'était des menaces qui venaient de l'État islamique ou d'autres?
C'est des milices. C'est aussi islamique, mais c'est pas comme.
Ce n'est pas comme l'État islamique.
Non,
pas Daesh.
Non, ça arrive pas à Bagdad. Ça, c'est toujours d'autre côté. C'est pas la même.
Alors, comment ça se passe quand on part? Un jour, vous rentrez chez vous et vous dites à votre famille, on s'en va?
En fait, c'était vraiment avec ma femme. Mon père et ma mère, elle sait pas. J'ai dit à ma mère, je veux faire mon master à l'étranger. Et en fait, j'ai dit, je vais quitter pour ça, mais j'ai pas dit. C'est comme mon grand frère qu'il sait que je vais partir à cause d'une menace que j'ai eue.
Vos parents n'étaient pas au courant que vous vouliez partir définitivement?
Oui. En fait, quand je suis arrivé en France, j'ai dit.
Donc maintenant, votre famille en Irak le sait?
Elle le sait, mais elle ne sait pas à cause de quoi je suis quitté.
Et alors, quand vous êtes parti, vous avez pris quel chemin, par quel itinéraire êtes-vous passé?
C'est comme tous les réfugiés, on est commencé par la Turquie. Et j'ai attendu presque 15 jours et par un petit bateau grec. Et après, c'était le chemin normal par les pays européens de l'Est. Donc, c'était 5-6 pays à pied.
Donc, vous êtes passé peut-être par des pays comme celui-là, la Hongrie?
La Hongrie, après, c'était Macédonie. Et avant Hongrie, il y avait, j'ai oublié comment, la Serbie, oui. Et enfin, je suis arrivé à l'Allemagne. J'ai resté une nuit et j'ai attendu l'annonce de la gouvernement française qui dit on cherche des réfugiés irakiens et syriens seulement. J'ai réfléchi un petit peu, j'ai dit il faut quitter l'Allemagne parce que c'était dur avec d'autres réfugiés chez vous, ils sont pas comme nous. Donc j'ai dit, je reste avec même origine presque. Nous, il est syrien, on est proches.
Vous préfériez rester avec des Syriens et des Irakiens plutôt qu'avec d'autres réfugiés, par exemple des Afghans, etc.
Oui, c'est ça, parce que ma femme est là où quelqu'un l'a tapé. Il y avait des petites, comment dire, couteaux. Ils sont dangereux. Donc j'ai dit, c'est pas la peine de rester.
Et plutôt que de rester en Allemagne, qui est un pays très développé, très accueillant pour les réfugiés, vous avez préféré venir en France ?
Oui, en fait, j'ai croyé que je vais rester longtemps au camp de réfugiés et j'ai réfléchi pour ça. J'ai dit, je peux pas vivre avec ces gens-là. Donc, j'ai préféré de quitter l'Allemagne. J'ai déposé une question pour mon frère aussi, pour dire comment ça va la société française. Elle m'a dit, je peux vivre là-bas, il n'y a pas grand changement entre l'Irak et la France.
Vous pensez que ce sont deux pays assez proches dans la façon de...
On n'est pas très loin. C'est vrai, c'est deux différentes civilisations, vraiment différentes, mais on a des valeurs communes.
Et lorsque vous arrivez en France, vous arrivez dans la région parisienne, à Cergy-Pontoise?
En fait, il y avait deux groupes, soit à Cergy, soit à Montmorency. On est arrivé à Montmorency et heureusement, on était choisi par la mairie de Franconville et on a bien accueilli là-bas.
Justement, quel accueil avez-vous reçu lorsque vous êtes arrivé en région parisienne?
Très bien. Il y avait deux groupes de secours populaire et secours catholique. Même la mairie de Montmorency, elle était pas bien accueillie. Les réfugiés, ils ont pas accepté de recevoir des réfugiés, mais quand même, ils ont ouvert un ancien bâtiment d'un hôpital, Simon Veil. Du coup, pour les réfugiés, il est fermé, mais ils ont préparé ça coup pour nous. J'ai resté presque mois et demi.
Et aujourd'hui, vous vivez à Franconville, donc Val d'Oise, région parisienne,
oui.
Et vous avez un travail.
Oui, heureusement. J'ai commencé cette année en mars. Et j'étais embauché par l'Académie de Versailles. Et heureusement, j'ai eu un contrat, même si un contrat de CDD renouvelable. Mais c'est une très bonne chose.
Et quel est ce travail?
Je suis prof de maths, donc je reste dans mon métier. Parce que j'ai essayé de changer plusieurs fois et je n'arrivais pas de faire. Donc j'ai dit que je dois rester dans mon métier parce que c'est très demandant en France, comme prof de maths.
Et votre épouse?
Ma femme, elle a essayé aussi de faire le même chemin, mais elle a fait un rendez-vous cette année, mais elles ont demandé d'être prof au collège. Et normalement, notre niveau, elle n'arrive pas de faire deux cours avec les collégiens parce qu'ils ont approche de, comment dire, école élémentaire. Et elle suit le prof à chaque mot, qu'est-ce qu'elle dit, l'accent, s'il fait une faute masculin, féminin. Il n'y a pas de grand chose de maths. C'est presque des histoires en maths. Donc, au lycée, c'est mieux pour nous. Et la dame, elle a dit, prochaine fois, si on a besoin d'un prof pour lycée comme moi, soyez le bienvenu.
Donc le problème de l'apprentissage de la langue est un problème qui est important pour vous. Il faut parler le français un peu mieux pour obtenir un travail correct.
Oui, c'est normal. La langue, c'est une vie. Et c'est vraiment une nouvelle vie pour nous parce qu'on n'a jamais parlé le français avant. C'était coup bonjour et bonsoir et c'est fini. On a vu ça sur télé. Parce que notre deuxième langue en Irak, c'est l'anglais. Et la langue française, elle est vraiment compliquée et dure, mais on était choqués par la langue. Mais après 2 ans, qu'on était arrivé de parler, de comprendre, on sent très bien maintenant.
Alors, vous avez une petite fille.
Oui.
Et est-ce que vous êtes installé en France durablement, pour longtemps?
Oui. Oui. En fait, pour ma fille, elle était aussi dure au debout parce qu'elle a eu un problème dans la route quand elle était passée par les pays, comme j'ai dit tout à l'heure. On a perdu ma fille presque 3 heures. Elle était passée au Macédoine et on est resté moi et ma femme. Mais heureusement, on a eu une amie, on a trouvé sur la route. Elle a pris ma fille avec lui et elle était choquée de ça. Et donc, quand on était arrivé, comme j'ai dit, elle peut pas nous laisser. Donc j'étais resté avec ma fille à l'école presque 2 mois.
Vous étiez dans l'école?
Dans l'école.
De votre fille?
Oui, je reste avec elle parce qu'elle pleure quand je quitte. Et c'est une question de panique.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est française. Elle parle couramment. Elle réfléchit, elle parle en français. Elle parle pas bien l'arabe. Elle essaye. Elle prononce pas vraiment bien, mais elle comprend bien, mais elle parle pas comme le français.
Est-ce que vous avez l'intention de retourner en Irak un jour?
Je peux pas, parce que je suis réfugié politique, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est vraiment difficile à revenir là-bas. Je peux pas laisser moi et ma famille dans la situation comme avant. Donc j'ai quitté à cause de ça, je peux pas revenir. Peut-être je peux déplacer dans les pays autour de l'Irak et pour voir mes parents parce que depuis 2015 j'ai jamais vu mes parents.
Donc vous avez l'intention de vous insérer dans la société française avec votre fille?
Oui, j'espère et je prépare mon dossier pour la naturalisation aussi.
Vous avez encore des amis en Irak? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à vos amis qui sont restés en Irak?
En fait, quand je suis arrivé, j'ai eu Facebook et j'ai resté quelques mois. Après, j'ai effacé tout parce que les gens demandent beaucoup de questions. Et comme j'ai dit, j'ai jamais dit à personne que j'ai quitté l'Irak à cause de ce problème ou ce problème. Donc, j'ai pas de connexion avec des amis. J'ai que les connexions avec mes parents et mon frère qui habite en Irak. Même ma famille, c'est-à-dire la famille de côté de ma mère et mon père, j'ai aucune connexion avec.
Vous avez donc coupé les ponts en quelque sorte.
Oui, parce qu'elle dépose beaucoup de questions et je n'aime pas de, comment dire, quelque chose pas bien arrivé de mes parents parce qu'ils sont un peu âgés et ils ont eu plusieurs opérations. Je peux pas leur laisser inquiéter.
Quel type de questions vous posent-ils, les gens?
Comment vous êtes arrivé? Comment ça marche là-bas? Pourquoi vous êtes quitté l'Irak? C'est bien ici?
Finalement, on vous reproche d'avoir quitté l'Irak?
Oui. En fait, chaque personne elle a une façon de réfléchir. Moi, j'ai vu, c'est presque impossible de rester. Ou elle choisit de rester. Donc chacun il a un avis.
Chacun est libre.
Oui, c'est ça.
Et vous avez choisi de quitter l'Irak?
Oui.
Et de faire votre vie ailleurs, donc en France?
Oui, comme les autres, ils ont leur vie et ils choisissent d'être comme les autres. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, c'était vous devez montrer votre religion. Et là, je n'aime pas du tout, moi. Moi, j'ai ma religion, c'est avec moi et mon Dieu. C'est cool pour ça. C'est pas pour montrer pour les autres. Donc moi je peux pas vivre comme ça. Donc j'ai décidé de quitter parce que je choisis un pays laïque. C'est ça qu'est-ce que je préfère.
Merci Ahmed Al-Azawi.
Je vous en prie.
Irakien, originaire de Bagdad, désormais installé à Franconville dans le Val d'Oise et professeur de mathématiques au lycée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. Autre exilé, Karam Al-Zouir est un musicien syrien installé à Strasbourg depuis 7 ans. Il est diplômé en éducation musicale à l'université de Homs en Syrie. Avec le guitariste Joe Coimbra, il a fondé le groupe de jazz Monkey Mind, dont voici un extrait. Karam Al-Zouir est également metteur en scène. Il propose notamment Un autre pays, Nôtre, N-O accent circonflexe T-R-E. C'est un spectacle musical pour enfants construit autour d'un texte écrit par des enfants migrants. Il retrace le parcours d'un enfant et de sa mère pour atteindre l'Europe et aborde la question de l'exil. Ce spectacle est visible à la salle FGO Barbara dans le 18e arrondissement de Paris ce samedi et après-demain lundi.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la tension dans le Golfe continue à faire la une des journaux panarabes et de la région.
Oui, une tension qui est montée d'un cran après la convocation par Riyad d'un sommet arabe à la Mecque pour examiner les agressions contre l'Arabie Saoudite et les Émirats, estiment les journaux. Un sommet qui aura l'Iran dans le collimateur et un sommet que certains éditorialistes qualifient de sommet de guerre. En plus des chefs d'État du Golfe, le sommet accueillera notamment le président égyptien et le roi de Jordanie, tous des alliés des États-Unis qui sont eux-mêmes dans une logique d'escalade contre l'Iran. Un sommet qui ne fait pas l'unanimité arabe. Les journaux proches du Qatar critiquent notamment cette escalade qui risque de faire le jeu des ennemis et des amis ennemis. Sous-entendu, Israël et les États-Unis. Ce à quoi répondent des éditorialistes proches de l'Arabie en soulignant l'embarras du Qatar qui abrite la plus grande base américaine de la région, tout en ayant des liens très étroits avec Téhéran.
Israël, toujours pas de gouvernement, Michel Paul, et les choses semblent se compliquer pour Benjamin Netanyahou, à tel point que l'on parle même de nouvelles élections.
Rien ne va plus pour Netanyahou, du moins en croire la presse israélienne de ce week-end, Eric. Le quotidien gratuit Israël Hayom, proche du Premier ministre, plus fort tirage de la presse israélienne, estime que le Premier ministre israélien va être contraint de dissoudre la nouvelle Knesset, et cela en raison des difficultés qu'il rencontre pour la formation d'une coalition gouvernementale stable. Car, estime le journal, en aucun cas, Benjamin Netanyahou ne reconnaîtra son échec. Pour Yediot Aharonot, la seule solution désormais pour le chef du gouvernement israélien, à part de nouvelles élections, eh bien c'est la mise sur pied d'une coalition reposant sur la moitié des députés de la Knesset, 60 sur 120, sans véritable assise parlementaire donc. À la base de cette crise, l'impasse des négociations avec le parti d'Avigdor Lieberman, l'ancien ministre de la Défense, qui se montre inflexible sur la loi de conscription des ultra-orthodoxes. Mais Eric, les commentateurs font remarquer que ce n'est qu'au milieu de la semaine prochaine que Netanyahou doit présenter son nouveau gouvernement au président israélien. Et selon la tradition, ici, les tractations se poursuivent jusqu'à la dernière minute.
Israël-Chine, les relations économiques se resserrent, Michel, et ce n'est pas sans inquiéter l'administration américaine.
C'est un sujet qui inquiète les Américains, qui à leur tour exercent des pressions sur Israël. Le fait notamment que les Israéliens concluent un accord avec la Chine pour le fonctionnement du port de Haïfa pour une durée de 25 ans, et puis aussi la construction d'une nouvelle usine de dessalement de l'eau de mer, qui serait elle aussi confiée à des entreprises chinoises. Alors tout cela à proximité immédiate d'installations militaires et stratégiques israéliennes, comme une base navale, une base aérienne, une pile atomique et une centrale électrique. Washington met en garde Israël, cela donnerait une capacité de renseignement accrue aux services secrets chinois. Pour plusieurs experts, tout cela entre dans un contexte beaucoup plus général de tensions entre les États-Unis et la Chine.
La canicule et le jeûne du Ramadan font couler beaucoup d'encre dans les journaux égyptiens, Alexandre.
Oui, tout à fait, puisque jeudi, le mercure a flirté avec les 47 degrés à l'ombre au Caire et s'est rapproché des 50 degrés dans le sud de l'Égypte. Alors, une journée qualifiée d'infernale par la plupart des journaux. La canicule, doublée du jeûne du Ramadan, a provoqué de nombreux évanouissements qui y sont allés jusqu'à la mort dans certains cas. La presse a souligné que le ministère de l'Éducation a reporté des examens de fin d'année et que beaucoup d'employés se sont fait porter pâle pour éviter de rompre leur jeûne. Certains chers ont expliqué la canicule en indiquant que c'était la porte de l'enfer entrouverte pour rappeler aux croyants et aux mécréants la nécessité de respecter les préceptes divins.
Et justement, Michel Paul, la canicule, c'est votre image de la semaine.
Une vague de chaleur intense, plus de 40 degrés un peu partout, plus de 50 degrés même par endroit à la mer Morte, des incendies, des milliers d'Israéliens évacués de leur village en flammes. Mais la photo que j'ai retenue est celle d'un phénomène météorologique rare, dû à la chaleur. Un nuage qui est descendu à ras le sol et qui a recouvert Tel Aviv, Netanya et une partie de la plaine côtière israélienne.
Merci Michel, merci Alexandre. Merci d'être fidèle à notre émission Orient Hebdo, mise en onde chaque semaine par Mathias Golchani. Demain, nous irons en Afghanistan à la découverte de la justice parallèle des talibans avec le chercheur Adam Batchko, chercheur à l'université Paris 1. À demain donc, tout de suite, un nouveau journal d'information.